D'accord, c'est bon. Bon, est-ce que je peux commencer, monsieur, par vous demander votre nom, votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît?
Donc, je m'appelle Alain Jesmard,
Oui.
Jesmar.
Oui.
Je suis né le 17 juillet 1939 à Paris.
À Paris. Dans quel quartier, s'il vous plaît? Arrondissement?
Dans le 16e.
Dans le 16e. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille d'origine?
Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir?
D'où vous venez, ce que votre père faisait, votre mère,
Mon
le profil politique, la famille, etc.
père était attaché d'inspection à la Banque de France, était à l'inspection de la Banque de France. Il avait fait une grande école de commerce,
Oui,
HEC,
oui.
passé le concours de la banque.
Oui.
Quand je suis né, ma mère était sans profession. La famille, ce sont à l'origine, ce sont des juifs alsaciens.
Oui.
Alsace, Alsace-Lorraine, enfin dans l'est de la France. Et sans doute beaucoup plus tôt dans l'histoire, Jesmar est le nom on trouve le nom de Jesmar dans des petits villages de Hesse, en
S,
Allemagne.
en Allemagne. Ah
Hesse.
oui, S, d'accord. Donc votre famille a quitté l'Alsace et est
Ma
revenue à
famille,
Paris.
en gros, a quitté, ma famille maternelle un peu plus tôt, et encore, enfin, ça dépend si on prend le grand-père ou la
Oui.
grand-mère. Enfin, ce sont des familles qui ont quitté l'Alsace au moment où l'Alsace est devenue prussienne
D'accord.
en 1871,
D'accord.
après la guerre de 1870. Par choix du
Oui,
statut des
d'accord.
Juifs français,
D'accord.
je pense, ce qui fait que ils ont rencontré la vie politique et citoyenne française à l'occasion de l'affaire Dreyfus, et ils ont été mêlés aux Dreyfusards, qui étaient dans lequel on trouvait des républicains, des
Oui.
francs-maçons, des... Donc il y avait dans ma famille, je pense, des deux côtés, une
D'accord.
tradition
Oui.
sur deux générations d'une culture de gauche, quoi.
Parce que votre père, oui, quel âge
Ah, mon
à
père a
l'affaire
été
Dreyfus?
tué, mon père a été tué à la guerre de 40, en juin 40. Donc, il était né en 1913. Bon, voilà.
Oui. Non, mais je n'ai pas tout à fait compris. Oui, votre
Mes
père.
grands-parents,
Oui. Et c'est les
c'est au niveau
grands-parents.
de la
C'est le
famille,
grand-père
au
qui a
niveau
été
des
tué.
grands-parents ou des arrière-grands-parents,
D'accord.
il y a eu cette,
D'accord.
cette, cette rencontre.
Donc vous êtes né à Paris en
39.
39, puis est venue l'occupation. Comment votre famille a vécu l'occupation?
Mon père a été tué en juin 40
Oui.
et ma mère a quitté Paris avec moi début de l'hiver 41 pour aller en zone libre. D'abord en Corrèze,
Oui.
et puis ensuite en Savoie, dans l'idée d'essayer de passer en Suisse, ce qui n'a jamais pu se faire.
Oui. Donc,
Donc j'ai fini la guerre avec ma mère dans un petit village de montagne au-dessus d'Aix-les-Bains ou
oui.
d'Infernavoir.
Et qu'est-ce que vous avez fait pour vivre? Vous étiez entouré par des gens qui vous
Alors,
aidaient ou...
la Banque de France a toujours aidé ma mère.
D'accord.
C'est-à-dire que, y compris ils l'ont accompagné pendant cette période. Et puis, je pense que dans la famille de mon grand-père maternel, il y avait des ressources qui étaient accessibles de temps en temps.
Donc, mais avec la banque, il n'y avait pas eu de problème avec la réalisation des...
Les dirigeants de la banque ont été accusés de collaboration, qui ont eu des ennuis donc sérieux à la libération, avaient quand même toujours protégé. D'ailleurs, ma mère, je pense, a témoigné.
Oui, je fais pause. Oui.
Attends, mais il faut que j'en.
Pas de problème, oui, je recommence. D'accord.
Alors, donc les dirigeants de la banque. Les dirigeants de la Banque de France ont eu une attitude ambiguë, disons, pendant la guerre, c'est-à-dire qu'en même temps, ils ont coopéré avec les autorités d'occupation, à l'évidence. En même temps, je crois qu'ils avaient sauvé une partie, mis à l'abri une partie des fonds, dissimulé un certain nombre de comptes juifs quand ils pouvaient le faire, ça n'a pas toujours été fait, il y a eu les deux. Et puis ils ont essayé de protéger leurs agents ou la famille de leurs agents.
D'accord.
Bon, c'est une attitude qu'on doit trouver relativement classiquement.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que qu'ils ont.
Donc, vous êtes revenu à Paris en
44. 44. Et là, j'ai commencé ma vie scolaire.
Oui. Où ça?
Dans l'école communale du 17e arrondissement.
D'accord. Et puis le lycée?
Lycée Carnot à Paris.
Oui.
Ma mère s'était remariée après la guerre en 47.
Oui.
Et donc j'ai fait une scolarité. Banal, enfin, d'un enfant de la moyenne bourgeoisie parisienne de l'après-guerre.
Oui. Donc, d'où date votre prise de conscience politique?
Je pense que quand on est un petit enfant juif caché et qu'on a y compris des récits, une expérience d'avoir changé de nom, d'avoir eu peur en croisant des soldats, des gendarmes, des policiers, ça crée déjà une base importante.
Oui. Mais ça pourrait mener dans les deux sens.
Pardon ?
Ça pourrait vous donner de la peur, de la timidité, ou bien...
Je pense que ce qui a fait écho à cette base, c'est la guerre d'Algérie.
Oui.
Pendant laquelle j'ai découvert tout un ensemble de faits qui m'ont bouleversé. D'abord, moi j'ai vécu toute mon enfance avec le portrait de mon père en uniforme, etc. Et c'était l'homme parfait.
Oui.
Et quand j'ai découvert que ceux qui portaient le même uniforme torturaient en Algérie, ça a été un choc extrêmement fort.
Oui.
Donc là, il s'est passé une prise de conscience. Rapide, immédiate, je dirais presque. Enfin, spontanée, quoi.
Oui.
De,
Et vous avez blâmé votre père ou vous avez blâmé l'armée française?
L'armée française des années 50 et quelques. Et donc j'ai été voir les choses d'un peu plus près, j'ai fait de l'alphabétisation d'Algériens, je me suis rapproché de ceux qui subissaient cela.
Oui.
Avant, je peux dire qu'on parlait politique à la maison,
oui.
Mais en même temps, dans un discours dans lequel les horreurs du nazisme s'étaient considérées comme une affreuse parenthèse qui était refermée, c'était fini, il y avait, on pouvait vivre en paix, avoir confiance dans les institutions, etc. Et puis, cette affaire de comportement de l'armée en Algérie, c'était le fait que c'était pas vrai, c'était pas
non,
fini.
Non.
Je pense que ça. Alors, bien sûr, c'est reconstruit, mais,
oui.
Mais je pense que ça a considérablement modifié mon regard sur les événements de l'époque. Il y a eu ça.
Vous avez commencé à méditer avec d'autres gens.
Oui. J'avais commencé à méditer un tout petit peu avant, à peu près, vers 1955. Un certain nombre d'anciens collaborateurs qui avaient été frappés de 10 ans d'indignité nationale ont commencé à refaire surface. Et j'ai souvenir d'un meeting où j'avais été avec des camarades lycéens, donc 55, j'avais 16 ans. C'était un des premiers meetings de l'après-guerre où d'anciens collabos avec le béret, et puis des avocats qui avaient défendu Tixier Vignancourt, enfin tous ces gens, refaisaient surface à Paris. Alors il y avait, c'était Salva Graham, je me souviens pas de la date, mais c'est Salva Graham. Et il y avait donc des jeunes lycéens, et on n'était pas organisé, on était allé comme ça. Et puis il y avait les employés de la presse avec les plombs d'imprimerie dans les poches à l'époque, les ouvriers du livre. Et le meeting s'est transformé en bagarre généralisée, et ils n'ont pas pu prendre la parole. On était très fiers de ça. C'est peut-être la première action politique.
C'était des collabos dans un parti
je pense que c'était d'être un mélange. Enfin,
oui.
je n'ai pas le,
oui,
j'ai pas le souvenir exact de ce que c'était, mais pour nous, ça,
oui,
c'était. Ils ressortaient de leur.
D'accord. Alors, pour vous, c'était un peu la revanche du nazisme, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Sinon, j'ai le souvenir d'avoir été avec mon beau-père, le second mari de ma mère, et écouter Marceau Pivert dénoncer la torture au Maroc.
Ah oui. À quelle année ça?
À peu près à la même époque.
Oui, d'accord.
À peu près à la même époque.
Vous...
Donc voilà, c'est une prise de conscience. Ça m'a amené. Donc vers 15, 16, 17 ans, à me sentir proche de ceux qui se battaient en Algérie contre l'armée française. Quoi.
D'accord.
Donc ça c'est une chose, et puis à la même époque, il y a eu deux événements, il y a eu 58
oui.
en France,
oui.
Et la disparition d'une république en quelques jours, enfin d'un système politique, qui était quelque chose d'absolument sidérant, quoi, pour un coup de tonnerre, enfin un ébranlement complet.
Oui.
D'une part, et puis je mets en relation avec un peu avant, donc 2 ans avant, 56, Budapest.
Oui.
Moi, j'ai participé aux manifestations contre l'entrée des chars soviétiques en Hongrie, jusqu'au moment où je me suis aperçu que les gens qui conduisaient la manifestation voulaient aller brûler le Parti communiste, l'Humanité. Donc ça s'est arrêté.
Parce que politiquement, vous situez où à ce moment-là ?
Je me situe pas vraiment.
Non.
À partir de 1956, je m'inscris dans les syndicats étudiants,
oui.
L'UNEF à l'époque. Mais je commence à militer, à m'inscrire dans un parti politique à la fin 1958.
D'accord.
À la création du PSA, qui est une scission scission de gauche de la SFIO, enfin scission. Contre la guerre d'Algérie, pour aller vite, contre le compromis avec le gaullisme. C'est le moment où Guy Mollet devient ministre de De Gaulle, et contre la guerre d'Algérie. D'une certaine manière, avant, il n'y avait pas d'espace politique dans lequel je pouvais m'inscrire.
D'accord.
Je me retrouve
chez
là,
les étudiants communistes, par exemple.
Non.
Ça ne vous intéressait pas?
Non. Non, j'étais. Je n'avais aucune affinité avec le fonctionnement de l'Union soviétique,
non.
Avec le discours marxiste, avec tout ça, non.
D'accord. Et pour revenir un peu, pour les études, vous faisiez des études supérieures, ce moment-là.
Je suis devenu ingénieur des mines, en fait, j'étais études. Ce qu'on appelle en France les préparations des écoles scientifiques.
Donc vous avez fait une école de mines ?
Oui.
À Paris ?
Non, à Nancy.
À Nancy. Donc vous êtes parti de Paris
Oui, j'étais très content de partir de Paris.
Ah bon ? Parce que ?
De sortir de l'univers familial.
Oui, d'accord. Bon,
c'était l'époque où les gens ne restaient pas jusqu'à 30 ans dans leur famille.
Donc on était en quelle année là ? Vos années à Nancy, c'était quand ?
59, à partir de 1959.
D'accord.
Et je reste 3 ans. Et là, à ce moment-là, c'est réellement. D'abord, j'ai si j'ose dire, le temps de militer.
Oui.
Parce que les classes préparatoires, ça me laisse un temps quand même limité. Et donc, je suis au PSA d'abord, au PSU, ensuite je deviens un des secrétaires nationaux des étudiants du PSU assez rapidement.
Et toujours à Nancy, ça ?
Non, à Paris.
Nancy-Paris,
je passe mon temps à naviguer entre Paris et Nancy. Je suis à Paris, je reviens à Paris au moment du putsch d'avril 61.
Oui.
Et là, je commence à préparer quelque chose qui n'arrive pas, mais qui est le système de passe des nuits à essayer d'organiser ce qui pourrait être une résistance à l'arrivée des parachutistes s'ils débarquent. Et là, j'ai un rôle actif et déjà un peu dirigeant, puisque je suis un des dirigeants nationaux des étudiants.
D'accord.
C'est l'époque aussi où je passe de l'alphabétisation à une aide plus précise en direction d'un certain nombre de gens du FLN algérien qui sont menacés. J'aide des gens à sortir de France.
Porte de valise, plus ou
je
moins.
porte pas des valises, je porte des gens, moi.
Oui, mais d'où vient cette expression?
C'est des gens qui portaient les collectes de fonds, portaient l'argent.
Ah ben d'accord.
Les valises étaient des valises d'argent ou des valises d'armes. Moi, j'aidais des gens à sortir.
D'accord, d'accord. Et qui étaient vos copains, vos camarades à ce moment-là, vos co-militants?
Il y avait beaucoup de noms.
Beaucoup de noms, mais donnez-moi deux ou trois noms.
C'est à l'époque, moi je fréquente d'abord des gens qui sont les dirigeants du PSU, par exemple.
Oui.
Je suis secrétaire national des étudiantes, et pas, je suis en contact, je rencontre Jean Popren, dont je suis proche, je rencontre, je sais pas moi, des gens qui ont été des Robert Verdier, Depreux,
oui.
Gilles Martinet,
oui.
Claude Bourdès, Mendès, tous ces gens, Daniel Meyer, dont je suis
oui.
aussi assez
oui,
proche,
oui.
tout ça sont des gens qui prennent un peu sous leur aile le jeune étudiant, entre guillemets, prometteur, qui est en train d'émerger avec quelques autres.
Donc pour vous, le fameux conflit des générations n'a pas existé?
Non, pas du tout. J'étais en plus plein d'admiration pour ces gens qui avaient été des résistants,
oui.
etc.
Et donc, après l'école à Nancy, vous avez commencé à travailler ou
je suis sorti de la, quand je suis sorti de Nancy, je suis devenu assistant à la Fac des sciences de Paris.
D'accord.
Et, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'avais rencontré à l'occasion de stages des profs de la Fac des sciences qui
m'ont... Oui, d'accord. Donc,
t'es assistante physique à la faculté des sciences de Paris.
Et votre parcours, parce que vous avez dirigé SNESUP à un moment où un
oui,
des dirigeants
oui,
de SNESUP,
c'est,
voilà.
Donc à ce moment-là, je suis rentré. Bon, la guerre d'Algérie, c'est terminé.
Oui.
J'étais donc, quand elle s'est terminée en 62, 63, c'est le moment où je suis devenu enseignant à l'université, enfin
oui.
à la faculté des sciences. Je me suis engagé naturellement dans le syndicalisme universitaire, comme j'avais été un syndicaliste étudiant, d'une
oui.
certaine manière.
Oui.
Comme syndicaliste étudiant, c'est moi qui avais été le... qui avait au congrès, un congrès de l'UNEF, congrès de Lyon, ça doit être en 60, j'avais été le porte-parole de la motion qui demandait la reprise des relations avec l'Union des étudiants musulmans algériens, l'UGMA, qui
oui,
était l'annexe étudiante du FLN. Enfin, j'avais été à l'intérieur
d'accord.
de l'UNEF, le porte-parole de ça. Enfin, c'était
d'accord.
Donc, une fois terminées les années étudiantes, dès que je deviens enseignant à la fac, je m'inscris dans le m'inscris au SNESUP,
oui.
le cheminement naturel.
Oui.
C'est l'époque où une nouvelle génération d'enseignants, en particulier d'enseignants scientifiques, commence à arriver
oui.
dans une université qui est restée tout à fait identique à ce qu'elle était avant la guerre. Et,
oui.
Et là, on peut parler, effectivement, si on veut, de conflit
d'accord.
de génération,
d'accord.
parce que le rapport des jeunes à la recherche, au dépoussiérage des contenus d'enseignement, des
oui.
pratiques enseignantes, Il arrive là une première génération de jeunes qui ont été récemment étudiants. On ne devient
oui.
plus enseignant à 40 ans après avoir passé beaucoup d'années dans l'enseignement secondaire.
D'accord.
On arrive directement à la fac et il se passe quelque chose il se passe une mutation du corps enseignant universitaire relativement importante. C'est d'abord il y a l'accueil des enfants du baby-boom qui commence à se profiler et
oui.
Il faut mettre des enseignants en face de ces étudiants. Donc il y a une mutation du corps universitaire lui-même.
D'accord. Et vos rapports avec les étudiants étaient plutôt bons?
Les rapports avec les étudiants sont beaucoup moins distants,
oui.
sont beaucoup plus simples. Et les aspirations des étudiants sont beaucoup mieux comprises par cette génération d'enseignants, c'est évident. Alors génération, il y a il y a bien évidemment des gens très anciens qui participent de ça,
oui,
ou,
oui.
c'est pas à couper,
oui.
mais il y a un mouvement, y compris d'enseignants qui ont été des militants étudiants de la guerre d'Algérie.
D'accord.
Il y a un brassage tout à fait particulier pendant cette période.
Donc vous avez milité avec certains étudiants à ce moment-là, déjà?
En tout cas, le regard porté par les enseignants de l'époque dont j'étais, sur les étudiants et leurs problématiques et ce qu'ils essayent et ce qui travaille à l'intérieur du mouvement, des mouvements étudiants, nous semble important, alors que ce n'était pas le cas pour les générations enseignantes précédentes.
D'accord.
Qui ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes, étaient complètement autoréférencés. Quoi.
D'accord.
On a affaire à des étudiants. Une partie des gens avec lesquels je milite à ce moment-là, au SNESUP, qui sont engagés avec moi, sont entre autres des étudiants qui ont vécu la crise de l'Union des étudiants communistes en première ligne.
D'accord.
La crise issue de la guerre d'Algérie. Donc,
d'accord.
Dans laquelle. Donc il y a une espèce de. Qui sont partis de l'UEC dans les années 60, 61, 62, 63.
Oui. Qui, par exemple
je pense à Michel Combe, à Bernard Herzberg, enfin, c'est des
oui,
gens...
Oui.
Ce sont des gens qui ont gardé des attaches avec l'intelligentsia communiste.
Oui.
Il y a là un nouvel environnement, en ce qui me concerne.
D'accord.
C'est-à-dire que la mouvance communiste avec laquelle je n'ai jamais eu d'affinité avant, y compris parce que par rapport à que ce soit le pacte germano-soviétique, si on remonte plus haut, ou le...
Oui.
Ou l'attitude sur la guerre d'Algérie, où ils étaient contre l'indépendance jusque très tardivement,
oui.
m'avait tenu largement à l'écart, voire dans des relations
oui.
d'hostilité
oui.
Avec les étudiants communistes. Et là, la crise du mouvement communiste et la crise des intellectuels communistes et qui a été extrêmement forte, fait qu'il se fabrique une espèce de perméabilité
oui, d'accord.
Qui fait se rapprocher des courants de gauche qui étaient extrêmement distincts et quasiment hostiles.
Oui. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez connu des gens de l'ENS, les pro-chinois, ou c'était plus tard?
Non, des phasages de quelques années, quand on n'est plus étudiant, est très rapide.
Oui, d'accord.
Non, je n'ai pas connu Les proches chinois, pour moi, c'était anecdotique.
Oui. D'accord.
Ils vivaient dans un pays bizarre qui était la pro-Chine.
Oui.
Et pour moi, c'était. Ils annonçaient enfin, je trouvais ça plutôt. Enfin, le peu que j'en savais, je trouvais ça plutôt absurde.
Oui, d'accord. Donc, arrive mai 68 et vous vous trouvez en première ligne.
Arrive mai 68 et je me trouve en première ligne.
Comment ça?
Ben, je suis secrétaire général du SNESUP.
Oui.
La crise, le cœur de la crise, en apparence en tout cas, est universitaire. Donc,
oui.
Les choses se produisent extrêmement, extrêmement rapidement. Il y a peu d'organisations reconnues qui dans lesquelles le mouvement peut se reconnaître facilement. Donc
oui.
il emprunte aux organisations existantes des porte-paroles. L'UNEF qui est quasiment moribonde à l'époque,
oui.
qui est en perte de vitesse complète par
oui.
crise interne. Et qui a cessé de passionner la grande masse des étudiants depuis la fin de la guerre d'Algérie,
oui.
qui s'est déconsidéré beaucoup à un président intérimaire et qui sert également de porte-parole parce que les gens se raccrochent à ce qui existe, donc.
Oui.
Jacques Sauvageau, donc moi-même en tant que dirigeant de SNESUP, légitimé par l'appel à la grève du 3 mai 68, le SNESUP à mon initiative a appelé à la grève générale dès le 3 mai 68, donc ça donne une légitimité et puis ça permet aux gens de se reconnaître dans un porte-parole et là, le seul élément radicalement neuf qui émerge à ce moment-là, c'est le positionnement de Daniel Cohn-Bendit,
oui.
Issu réellement, le seul qui soit issu d'un mouvement réel de l'époque, quoi, qui soit pas simplement là pour avoir accompagné le mouvement à partir d'une
oui.
position institutionnelle. Lui est issu de l'intérieur même, du cœur
oui.
du mouvement.
Oui.
Bon, donc on voit se constituer ce trio, enfin ce... Bon. En même temps, ce qui se voit beaucoup moins, c'est le fait que tout ça se situe dans un contexte tout à fait particulier en France, puisque... il y a eu des grèves extrêmement dures et extrêmement longues,
oui.
je ne sais pas, à la Rodia Ceta à Lyon, il y a eu des barricades au Mans, des nuits entières dans l'hiver qui a précédé. Enfin,
oui.
il y a également un bouillonnement
oui.
Ouvrier extrêmement fort, ce qui fait que quand les gens seront surpris de voir miroiter un certain nombre de mouvements, c'est que tout ça n'était pas... tout ça correspond à des maturations différentes
oui.
de mouvements qui se trouvent à peu près en phase au moment dans le début le printemps, début de l'été 68, et qui
oui.
Était déjà l'ensemble de ce qui va constituer le mouvement, y compris des mouvements paysans dans l'Ouest, etc.,
oui.
est en train d'arriver à maturation,
oui.
Chacun de façon autonome. Et ce qui va faire la spécificité de mai,
oui.
c'est qu'ils vont,
oui,
vont être à peu près en phase au même moment. en même temps qu'une crise politique, une crise de l'autorité gaulliste, enfin l'autorité du général de Gaulle,
oui.
qui au bout de 10 ans d'un pouvoir qui semblait naturel pour faire face à la crise algérienne, commençait à
oui.
peser.
Oui. Mais à ce moment-là, vous aviez l'impression de contrôler quelque chose ou d'être porté par cette vague?
D'être surtout porté et d'être en phase avec cette vague. Alors,
oui.
est-ce que il y a une volonté quand même, il y a une volonté de, tant que je suis secrétaire général du CNESUB, j'ai en même temps la volonté d'accompagner le mouvement, éventuellement d'être clairement dans les premières lignes de
oui.
tout ça, en même temps de faire en sorte que de garder quand même pour mon syndicat à l'époque des marges de manœuvre,
oui.
de ne pas appeler à certaines manifestations ou de n'y appeler qu'une fois qu'elles ont atteint elles ont rencontré un degré de répression policière important, en même temps de protéger le caractère syndical d'une organisation
oui.
en étant à la limite complète, mais en même temps de ne pas l'exposer au-delà de ce qu'il peut supporter. De toute façon, il y a un tel décalage entre ce qui se passe dans un certain nombre de villes, et à Paris en particulier, et ce qui se passe dans certains endroits de hors Paris, que les gens ont... Il y a des endroits où les gens sont acteurs et d'autres où ils sont spectateurs.
Oui,
donc
d'accord.
L'affaire est compliquée. En plus, la télévision ne rencontre des choses qu'à partir du 10, 11, 12 mai. Enfin, il y a une grande semaine où les informations diffusent extrêmement peu et où
oui,
le contrôle du pouvoir politique sur l'ORTF est très fort. Donc il y a les radios périphériques, mais
oui.
bon, ce qui fait que un secrétaire syndical de Bordeaux peut me téléphoner et me dire on comprend bien que tu sois sur des barricades, mais on voit pas pourquoi tu parles à la télévision sans cravate. C'est pour indiquer qu'il y a un décalage.
Oui, mais il se passe des choses, par exemple, à Nantes, non?
Il se passe des choses à beaucoup d'endroits.
Oui,
il se passe des choses à beaucoup
oui.
d'endroits, à Nantes,
oui.
à Toulouse. Mais pas toujours tout de suite.
D'accord.
C'est-à-dire que quand ça commence le 3 mai à Paris,
oui.
Le reste de la France...
Oui, d'accord. Oui.
Mais en même temps, quand je lance l'appel à grève générale dans toutes les universités, le 3 mai au soir, c'est suivi.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que les gens comprennent qu'il se passe
d'accord.
quelque chose. Il y a la compréhension qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important.
Oui.
En quelques jours, on a un appel avec les prix Nobel. Enfin,
oui.
il y a une. C'est pas purement un réflexe. Il y avait une espèce d'attente qu'il se passe quelque chose. On voyait bien qu'il y avait quelque chose de très important qui était en train de se passer. Et que la réponse du pouvoir politique était en termes policiers, un phénomène politique. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, de partagé.
Oui.
Bon, en même temps, la mise en mouvement des gens est complètement déphasée suivant l'endroit où ils se trouvent et le degré de compréhension de l'importance des événements, quoi.
Et la grève générale des ouvriers, enfin la manifestation du 13, etc., ça, vous avez influencé ça un peu?
Ah oui, oui, tout
ça...
à fait, tout à fait. Euh... La nuit de la rue Gay-Lussac.
Oui.
Nous appelons, et moi j'appelle en particulier, les organisations, enfin la population à venir,
oui.
La population, et puis les organisations syndicales à réagir.
Oui.
Et quand je sors au petit matin de cette affaire, je suis conduit à la Fédération de l'Éducation nationale,
oui.
Dont le SNESUP est membre.
Oui.
Et c'est là que j'apprends qu'effectivement, les confédérations, la CGT, CFDT, Force ouvrière, la FEB,
oui.
Vont se réunir d'un moment à l'autre à la Bourse du Travail,
oui.
À la Place de la République.
Oui.
Et la FEM nous demande d'y aller et d'être en gros son porte-parole dans cette. Et là, on organise, c'est là que s'organise l'appel à la manifestation. La grande manifestation,
oui.
Et c'est moi qui lis le communiqué commun à la presse, enfin, de la CGT, de la CFDT et tout ça. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça fonctionne comme ça.
Donc c'est samedi, c'est le samedi? Samedi 11, quelque chose comme ça?
J'ai peur de dire des bêtises.
Ouais.
On peut retrouver
pas
facilement
ça.
Les... Non,
oui.
C'est le... Oui, c'est le... C'est un vendredi soir, la rue Gay-Lussac, donc
oui.
ça se passe le samedi,
oui.
Et la manifestation est appelée pour le lundi ou le mardi,
oui,
le 13.
Oui. Oui.
Pour le 13.
Oui. Et donc, il y a eu la manifestation, la grève générale.
La grève générale, il n'y a pas eu de grève générale tout de suite, il y a eu des mouvements de grève,
oui.
Qui sont devenus une grève générale par
oui.
contamination.
Oui. Oui.
Il y a eu des mouvements grévistes à Caen, près de Rouen chez Renault, et puis de proche en proche, c'est le déclenchement de Billancourt qui est le symbole d'une généralisation qui a quand même mis plusieurs jours. Et sur la grève générale, moi je serais très prudent
oui.
regardant, parce qu'il y avait les foyers, il y a les foyers qui sont mis en grève d'eux-mêmes,
oui.
Avec sur des modalités qui leur appartenaient, qu'ils avaient
oui.
Fabriquées. Et puis, moi je pense que la CGT a joué un grand rôle dans la généralisation, en pensant d'ailleurs probablement à ce qu'il faudrait faire pour arrêter la grève un jour.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est plus facile d'arrêter une grève qu'on a déclenchée qu'une grève qu'on a subie.
Oui.
Et au bout d'un moment, ils ont lancé leur section syndicale dans l'appel à la grève générale, parce que ça leur permettait de contrôler le mouvement
oui.
gréviste.
Oui,
pas seulement peut-être en pensant à l'issue et à l'arrêt des choses,
oui.
Mais en tout cas d'avoir un contrôle sur le mouvement gréviste, alors que les premières grèves étaient des grèves sauvages qui leur
oui.
échappaient totalement.
Oui,
et il n'y a rien de pire pour un cégétiste
oui,
communiste que de perdre le contrôle d'un
oui.
mouvement.
Oui.
Donc tout le travail... Je vois bien ce qu'ils avaient essayé de faire avec moi, le syndicat,
oui.
à travers les autres syndicats communistes et tout ça, pas cher bon. Et donc, pour eux, une grève qui devient une grève ouvrière qui n'est pas contrôlée par eux, c'est la pire des choses qui peut leur
oui.
arriver, surtout si elle se généralise et qu'elle démarre dans toute la France.
Oui.
Donc, ils essaient, pour mieux contrôler, pour essayer de rattraper un contrôle du mouvement,
oui.
ils lancent la grève, y compris dans un endroit froid.
Oui, d'accord.
Et pas simplement quand l'ébullition est arrivée.
D'accord. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous imaginez comme issue? Une issue politique, une issue syndicale, une issue révolutionnaire?
Je ne sais pas ce qu'on imagine. C'est un mélange de tout ça.
Oui.
En fait, l'issue politique en termes de parti politique, personne ne la voit.
Non.
Personne ne la voit, à moins d'imaginer que le Parti communiste devienne révolutionnaire par un miracle. Il y avait un vieux militant communiste qui était devenu, qui était passé au PSU, qui s'appelle Victor Fay, qui avait été œil de Moscou à Paris dans les années 30.
Oui. Oui.
Qui disait à l'époque que dans les années 20 et 30, dans les années 30, il y avait un parti qui était démocratique et pas révolutionnaire, qui était la SFIO, et un parti pas démocratique mais révolutionnaire, qui était le Parti communiste.
D'accord.
Que les démocrates n'étaient plus révolutionnaires et les révolutionnaires n'étaient plus démocrates, et que par conséquent, rien ne les empêchait de se mettre d'accord.
D'accord.
Et finalement, c'était une vision pas tellement mauvaise des choses.
D'accord.
Donc, je pense que ce qui a poussé aux idées de rechercher une création spontanée du mouvement lui-même, une création propre du mouvement, c'est justement le fait qu'il n'y avait pas de crédibilité sur une issue syndicale ou politique telle qu'étaient les syndicats et les partis.
Oui, d'accord.
On ne voyait pas. Il y avait eu dans le syndicalisme étudiant de ces années-là l'idée de l'intersyndicalisme, enfin l'idée que à travers ce qui se passait à l'université, par exemple, on crée les conditions pour que le reste des syndicats viennent et qu'ils prennent le relais et qu'on... Vous savez, quand les étudiants sont partis de la Sorbonne pour aller à Renault, il y avait une banderole devant.
Oui.
Et la banderole disait « Les ouvriers prendront des mains fragiles des étudiants le drapeau rouge de la Révolution ».
Ouais.
Il n'y avait pas la signature de l'auteur de cette phrase. Et j'ai mis bien des années à découvrir qu'elle était Joseph Staline.
Ah bon? Pas mal. Ouais.
Donc c'était les étudiants marxistes-léninistes qui avaient fabriqué ça, mais ils n'avaient pas, il n'y avait pas leur,
il n'y
avait pas la signature ni la marque. Mais donc il y avait ça fonctionnait dans cette idéologie-là quand même,
oui.
d'un relais pris, mais simplement il n'y avait personne pour prendre le relais d'un mouvement tel qu'il se produisait. Donc c'est ça qui a donné toutes ces idées de fonder de nouvelles logiques et de nouvelles organisations et de nouvelles démarches. Parce que ceux qui étaient dans cet état d'esprit avaient le sentiment que les conditions existaient, sauf qu'il n'y avait pas de relais organisationnel nulle part, ni dans le champ politique, ni dans le champ syndical.
D'accord.
Je pense que voilà.
Donc est-ce que vous avez pensé, venu le mois de fin mai, juin, est-ce que vous avez pensé que c'était ce qui s'est passé, c'était un échec, ou cette fameuse répétition générale, ou...
Oui, moi je pensais que c'était ni une répétition générale, ni un échec, c'était le début de quelque chose, mais que...
Oui.
Il fallait essayer de concevoir, de concevoir un nouveau schéma, un nouveau... Nouvelle, il fallait que le mouvement était tellement neuf dans ses formes, justement, pas dans la répétition, pas dans le, pas dans le rebond de 1917 ou de que sais-je, qu'il fallait fabriquer un nouveau dispositif politique qui soit adapté à ce qu'était la réalité d'un mouvement qui certes avait puisé dans le passé beaucoup de choses, mais qui était tellement original qu'il ne pouvait pas se couler dans le moule de ce qui était, de ce qu'était l'offre politique ou syndicale de l'époque. Donc il fallait construire, construire en marchant quelque chose.
Et qu'est-ce que vous avez construit et avec qui?
Ben, on s'est retrouvé en très petit nombre
oui.
À ce moment-là. Moi, j'avais quitté le SNESUD depuis longtemps, y compris pour ne pas pénaliser le syndicat.
C'est-à-dire que vous avez démissionné?
J'ai démissionné début juin, fin mai, je ne sais plus,
oui.
Parce que je pensais que je voulais justement aller de l'avant vers la construction de quelque chose de neuf et que je ne pouvais pas y emmener, enfin ça n'avait pas de sens d'y aller en restant secrétaire d'un syndicat, un syndicat n'ayant pas vocation tel qu'il était, tel qu'étaient les universitaires, enfin je... l'image que j'avais me permettait d'emmener le syndicat un peu plus loin,
oui.
mais je trouvais que ça n'aurait pas été... respectueux de ce qu'était le fond du mouvement syndical. J'estimais que j'avais emmené le plus loin qu'il était, était possible. Donc je suis parti seul. Et avec un certain nombre de gens, nous avons pensé qu'il fallait reconstruire quelque chose, construire quelque chose, pas reconstruire, construire quelque chose à partir de ceux qui avaient été le plus loin en mai. Et le plus loin, c'était pour nous... ceux qui avaient accompagné le mouvement depuis l'université jusqu'à Flins, où il y avait eu des affrontements policiers, jusqu'à Sochaux, où la reprise du travail avait été refusée contre la CGT d'abord, puis avait été jusqu'à l'affrontement avec les forces de police qui avaient forcé les ouvriers à reprendre en tuant deux... tuant deux ouvriers à Sochaux, Blanchet et Bello, et en forçant la reprise du travail au prix de la mort d'un jeune lycéen à Flins. Donc nous pensions que c'était les points les plus avancés de ce qui s'était fait en mai et que c'était le point de départ de la construction de quelque chose qui, à partir de, d'insurrections éventuellement locales, se retrouverait en train de se confronter avec la logique du pouvoir politique en place.
Parce que quand vous dites « nous », c'est à ce moment-là que vous...
Nous, c'est une poignée de... une poignée de gens, moi, Serge Julie, quelques...
Mais quand est-ce que vous avez rencontré Serge Julie, par exemple?
Ben, pendant le mouvement, moi, je me suis... je me suis rapproché, puis j'ai participé au mouvement du 22 mars. C'est là que je l'ai croisé.
Oui.
Mais c'était à partir du...
Il était au 22 mars, je ne savais pas.
Oui. Oh,
d'accord.
Oui. À partir du, je sais pas, du 10 mai, 9, 10, 8, 8, 10 mai, quelque chose comme ça, il y avait eu une manifestation qui s'était dispersée. Moi, je... C'est le moment où il y avait, où l'UNEF négociait avec... il y avait des négociations, enfin, c'est compliqué ces histoires, il y avait des négociations... plus ou moins secrète sur le fait que seraient libérés un certain nombre des gens qui avaient été emprisonnés dans les premières qui avaient été arrêtés dans les premières manifestations, mais uniquement ils voulaient libérer uniquement les Français, pas les étrangers et tout ça. Donc moi j'avais trouvé ça atroce, cette l'acceptation même de cette négociation. Et donc l'interruption d'une manifestation, pour, enfin la demande d'arrêt d'une manifestation pour permettre cette négociation. Donc c'est là que j'avais éprouvé le besoin d'aller rendre compte de la situation et de mon état d'esprit devant une assemblée du mouvement du 22 mars.
D'accord.
C'est là que j'ai rencontré Danny Cohn-Bendit, Serge Julie, enfin tous les protagonistes du 22 mars de l'époque.
D'accord. Et vous avez rédigé vers la guerre civile
oui.
à ce moment-là,
dans l'automne,
à l'automne 68. Oui. Et quand vous, c'est un titre assez sensationnel.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensiez à quoi?
On pensait qu'inéluctablement il y aurait des soulèvements populaires ici et là et que ces soulèvements seraient réprimés dans le sang comme à Sochaux ou à Flins.
Oui.
On pensait que le temps que le mouvement reprenne son souffle et qu'un certain nombre de choses que l'issue des accords de Grenelle ne correspondait pas à un certain nombre d'aspirations
oui.
ouvrières telles qu'on avait pu les percevoir,
oui.
même à distance. Le mouvement des OS, le mouvement contre l'organisation taylorienne du travail, enfin toute une série de phénomènes. On avait vu monter un mouvement de jeunes ouvriers, de jeunes OS extrêmement puissants.
Oui, d'accord.
Contre l'organisation du travail, on pensait que ça allait provoquer des mouvements ici et là, et que ces mouvements, le pouvoir politique les réprimerait dans le sang,
oui.
et que ce qui était la nécessité, c'était de construire un dispositif politique qui permettrait de se préparer
oui.
et de préparer de préparer y compris dans les usines les gens à ce qui était d'inéluctables affrontements constitués à l'horizon de 4-5 ans donc
oui.
Voilà.
Et ce dispositif politique c'était la gauche
ça a été
prolétarienne.
La gauche prolétarienne.
Donc à quel moment avez-vous rencontré ceux qui avaient dirigé avec vous?
L'hiver 68-69, janvier-février, par là.
Et qui en particulier?
Benny Lévy.
Oui, Benny Lévy, oui.
Essentiellement Benny Lévy, puis ensuite c'est lui qui nous a présenté à ses camarades. On a eu un cycle de discussions avec Benny Lévy pour essayer de confronter nos points de vue. On savait que c'était ce... qui avait été comme nous jusqu'à Flins.
Oui.
Et on avait besoin de confronter nos regards la situation, sur ce qui convenait de faire, mais aussi d'examiner
oui.
Ce qui pouvait être. Y avait-il un corpus commun de
oui.
pensée, de logique de,
parce qu'à Flins, vous étiez plutôt avec le 22 mars, et
oui.
les maoïstes aussi étaient là, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Donc voilà. On estimait que
d'accord.
c'est là qu'il y avait, que cette rencontre pouvait être fondatrice de quelque chose.
D'accord. Et vous l'avez trouvé, Benny Lévy, comment? Comme leader politique
D'abord, comme interlocuteur. Moi, je ne l'ai vu en position de leader politique, c'est-à-dire avec ses propres camarades, que plus tard.
D'accord.
On a d'abord eu un très long cycle d'explications en petit groupe. Quoi.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, c'était un intellectuel extrêmement séduisant.
Oui.
Intellectuellement très, très puissant. Comme,
oui, oui.
Très, très rapide et très... qui était détenteur d'une culture politique que moi je n'avais pas, par exemple.
Oui.
Moi j'étais... j'avais une connaissance extrêmement banale et vulgaire du marxisme,
oui.
du léninisme, de l'histoire du mouvement ouvrier, comme on disait.
Oui.
Pour moi, tout ça, ça existait. J'avais lu un peu, comme tout le monde, mais comme un bon militant de gauche, ouais, je savais à peu près ce qui se passait là-dedans. Mais là, on avait affaire à quelqu'un qui... des études de philosophie, était un élève d'Althusser,
oui,
était en tout cas dans ce champ-là avait une certaine maîtrise de toute cette pensée et d'autre part était un excellent je dirais pas orateur parce qu'on c'était en petit groupe mais était très brillant dans les discussions. Serge, Julie, qui était avec moi, connaissait peut-être mieux que moi, peut-être toutes ces choses. C'était plus acculturé dans cette culture. Il avait été un des responsables de l'Union des étudiants communistes. Oui. Il avait plus cette culture-là.
Oui.
Mais à ce moment-là, moi, je venais plus de la social-démocratie comme marge de pensée.
D'accord. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui vous est amené à votre procès, par exemple, en 70, comment ça s'est passé?
Mais pour comprendre, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le fait que la logique que je vous ai exposée tout à l'heure était celle qui avait le plus de chances de se produire et qu'il fallait s'y préparer, bon, on a un certain nombre de militants ont d'une part essaimé dans les usines et ont pratiqué ce qu'on appelait l'établissement, c'est-à-dire se sont installés comme OS dans une série d'usines dont on pensait qu'elles, vu leur caractéristiques qu'elles étaient propices à ce qu'il s'y passe quelque chose.
Oui.
Jeunesse ouvrière, ouvrier OS et pas ouvrier qualifié.
Oui.
Le fond de commerce de la CGT, c'est le P3, enfin l'ouvrier professionnel de haute qualification.
D'accord.
Dans les établissements scolaires et universitaires pour maintenir un niveau pour participer à l'ébullition qui continue, pour maintenir ça à niveau, et y compris pour alimenter l'établissement.
Oui.
Et puis, un certain nombre d'actions symboliques pour témoigner, manifester, rendre clair rendre visible cette démarche. Donc on se retrouve des actions qui sont menées l'année suivante à Flins, à la date anniversaire de ce qui s'était passé en 68, Fauchon un peu plus tard, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, enfin on recherche des actions qui éclairent ce travail en profondeur qui est mené par ailleurs des militants ou des groupes militants, presque des militants individuellement d'ailleurs plus que des groupes, puisque ce sont des militants qui sont effectivement dans les endroits qu'on considère comme plus ou moins stratégiques, qui se font embaucher, et qui ont vocation à créer des groupes autour d'eux, dans une dialectique, pour le coup, entre le travail qu'ils font à l'intérieur de l'usine et éventuellement des groupes de jeunes qui distribuent des tracts à la porte pour raconter ce qui se passe à l'intérieur.
Bon. Oui.
Et quel rôle j'ai là-dedans? Un rôle relativement faible. Enfin, au départ, je participe aux réunions. Enfin, bon. Et à partir du moment où on crée un journal, donc La Cause du Peuple, enfin qui est la reprise d'un journal que les marxistes-léninistes avaient fait, mais qui prend un style très particulier, qui est le reflet des luttes telles que nous estimons être celles qui correspondent au schéma, pour aller vite. Avec un style très particulier, très expressif et dur, et qui est le qui est proche du style justement de ces jeunes OS révoltés.
Mais assez violent.
Oui, violent, mais oui. Les jeunes OS de l'époque ne mâchent pas leurs mots non plus.
D'accord.
Ne mâchent pas leurs mots non plus. C'est quelque chose qui est conçu et construit en miroir et proche de ce qu'expriment les jeunes. Il faut quand même mesurer que dans l'année, par exemple, 70-71, le Centre national du patronat français, qui n'est pas l'endroit le plus gauchiste de France, recense une séquestration de patrons par semaine.
Oui, d'accord. Mais ce n'était pas votre idée, c'était l'idée des OS, tout ça, la séquestration.
Ah oui.
Qui avait une préhistoire, je ne sais pas d'où est venu ce... Peut-être en 36, je ne sais pas.
36, c'est grève générale, je pense que c'est rare que... C'est grève avec occupation d'usine.
Oui.
La séquestration, c'est plutôt une modalité de 68 hein.
Oui.
De prendre les responsables, de ceux qu'on a sous la main.
Je ne sais pas d'où est venu. C'est un truc italien, une pratique italienne. Non.
Je ne sais pas.
Oui.
Je ne saurais pas dire, ça s'est produit.
Oui.
Et ça s'est répandu comme une tache d'huile.
Oui, d'accord.
On peut peut-être trouver des traces, mais je n'ai jamais cherché, je ne sais pas.
Oui.
Et c'est l'idée qu'il n'y a pas un patronat abstrait, mais que c'est celui qu'on a sous la main qui est responsable, qui doit décider. Ça,
d'accord.
C'est clair.
D'accord.
C'est parfaitement clair.
Oui.
C'est parfaitement clair que c'est... De même que les syndicats n'ont pas beaucoup de rôle là-dedans. C'est vraiment l'ouvrier réel et le patron réel qui se confrontent. Autour d'une revendication particulière, d'une contestation particulière de la pratique de la hiérarchie. C'est un moment très fort de lutte contre les petits chefs.
Oui.
Donc c'est très personnalisé.
Oui. Et est-ce que vous avez des contacts, parce que pas mal de, enfin, une grande partie de ces OS étaient d'origine algérienne,
migrant.
Non.
Enfin, oui et non. Oui et non.
Oui.
C'est le début de ça.
Oui.
La plupart des OS de l'époque, ce sont des paysans qui ont quitté leur ferme pour devenir ouvriers d'usine. Le gros des OS, c'est en train de se faire. Cette mutation-là, qui a commencé vers 66. 66, 67, mais la première vague de recrutement des OS, et coïncide avec la disparition de la paysannerie française.
D'accord.
Donc c'est en tout cas un mélange des deux, mélange des deux. Alors maintenant, dans les grandes usines de la banlieue parisienne, c'est autre chose.
Oui.
Il y a effectivement des recrutements, mais c'est un mélange. Un étrange mélange de recrutement entre les ouvriers d'origine nord-africaine, algérienne essentiellement, mais pas seulement.
Oui.
Et des jeunes immédiatement issus de la paysannerie.
Oui. Mais est-ce que c'est le soulèvement palestinien qui mobilise un peu les Algériens ?
Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ça vient beaucoup plus tard.
Oui.
Ça vient beaucoup plus tard, 72, enfin par là. C'est quand il y a des conflits entre Algériens et Marocains, parce qu'il y a les conflits de frontières, parce que il y a des tas de conflits. Et c'est au contraire, c'est les politiques qui cherchent ce qui peut être un point d'unité de gens qui sont en conflit et qui leur propose d'une certaine manière l'image palestinienne comme point de... c'est un peu la même construction que celle qui se produit dans les pays arabes, de limiter les conflits internes en fabriquant une image de référence héroïque.
D'accord. Et vous avez vous-même lancé un appel aux Palestiniens ?
Qu'est-ce que j'ai fait, moi, là-dedans ? Je pense, d'abord, j'ai été... C'est une affaire qui est le cheminement n'a pas beaucoup d'intérêt, mais Benny Lévy venait d'Égypte.
Oui.
Un de ses frères, beaucoup plus âgé que lui, avait été des communistes égyptiens qui avaient été emprisonnés sous Nasser.
Oui.
Et Mahmoud Hussein, je ne sais pas si vous voyez, puisqu'il y a eu des tas de livres.
Bon.
Donc, et lui s'était converti à l'islam,
d'accord.
Le frère de Benny.
Ah ouais, d'accord. Ça, je ne savais pas. D'accord.
Donc, c'est peut-être par ce canal-là qu'on a commencé à s'intéresser à l'affaire palestinienne. Et que je me suis retrouvé à l'été 60. Je vais dire des bêtises. L'été 69 ou l'été 70, enfin, je ne sais plus. Aller dans les camps de réfugiés palestiniens et revenir avec l'idée qu'on pouvait effectivement s'intéresser à cette dimension pour essayer de construire une unité des jeunes immigrés. Oui.
D'accord.
Est-ce que j'ai lancé un appel? Je crois pas, mais par contre, quand j'étais en prison, les gens ont utilisé mon nom pour Jesmar Arafat, je sais pas quoi, mais c'est pas moi qui. Enfin, c'est pas moi singulièrement.
Alors, racontez-moi encore le procès et puis la prison, parce que comment ça s'est passé le procès? C'était pour quel événement? Pour quel.
C'est très simple. La cause du peuple était interdite à chaque numéro.
Oui.
Ils ont emprisonné deux directeurs successifs, Jean-Pierre Le Gantec et Michel Lebris.
Oui.
Michel Lebris a été accusé d'incendie volontaire pour avoir signé un article dans lequel il était écrit une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine.
Oui.
Et quand il est arrivé en prison, il lui a enlevé sa boîte d'allumettes. Donc, bien. Donc, il y avait ça, et les journaux étaient saisis régulièrement,
oui.
Etc. Donc, moi, j'ai été trouver Jean-Paul Sartre, et je lui ai demandé s'il serait d'accord pour prendre la direction du journal. Enfin, c'est une histoire qui est connue, pas plus loin. Donc, à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus emprisonner les directeurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que la décision de m'arrêter, et de me mettre en procès, et de me mettre en prison a été prise, parce qu'il fallait que... Il avait besoin symboliquement, enfin politiquement,
oui.
de montrer qu'un tel mouvement ne pouvait pas continuer. Comme on ne pouvait plus mettre en prison les directeurs du journal, il fallait bien s'en prendre à quelqu'un qui était encore plus symbolique que les directeurs du journal, puisque j'avais été un des porte-parole de 68. Si le pouvoir était capable d'arrêter le porte-parole de 68, devenu porte-parole du mouvement révolutionnaire le plus avancé de l'époque, ça prouvait qu'il avait la force de tout casser. Donc la décision a été prise là, et j'ai appelé à manifester le jour du procès de Le Dantec et de Le Bris, et j'ai donc été incriminé pour appel à la violence suivi des faits contre les agents de la force publique, ce qui est la traduction juridique de l'appel à une manifestation interdite en France, puisqu'il y a toujours un agent de la force publique quand il y a une manifestation interdite qui est maintenue, qui se produit, il y a toujours un blessé quelque part. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à faire 18 mois de prison. À ce moment-là, quoi.
Il y
avait deux procès. Il y a eu un procès correctionnel, classique, sur cette manifestation. Et le jour où j'ai été arrêté avec un papier dans lequel je disais ils avaient décidé de dissoudre la gauche prolétarienne, oui. D'interdire l'organisation.
Oui.
Et moi, j'ai été arrêté avec un papier que j'envoyais à mes camarades dans lequel je disais il ne faut pas reconstruire la gauche prolétarienne et pas la maintenir, il faut faire autre chose.
Oui.
Et ce papier leur a servi de base pour déclarer que c'était la preuve que j'étais en train de la reconstituer.
D'accord.
Donc ils m'ont envoyé devant la Cour de sûreté de l'État, qui était un tribunal militaire pour reconstitution de l'île dissoute, oui. Atteinte à la sûreté de l'État, etc.
D'accord.
Voilà. Ça fait 18 mois de prison.
Et c'était bien 18 mois.
Oui.
Donc vous êtes sorti à quel moment ?
L'hiver 71.
71.
Décembre 71.
Et donc, est-ce que la période en prison vous a changé les idées?
Sûrement.
Ou les stratégies?
Ben, j'ai lu d'abord.
Oui. Un peu de Marx.
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
Au début, pas du tout, parce qu'il n'y avait pas, d'ouvrage comme ça à la bibliothèque de la prison.
Mais, c'était quelle prison?
C'était à Fresnes.
Oui, la Fresnes.
Il n'y avait pas d'ouvrage de genre, donc j'ai commencé à pouvoir faire rentrer des livres après une grève de la faim. Mais...
Ah bon ?
Parce qu'on avait droit à un livre par semaine, c'était un peu court.
C'est pour des gens qui ne lisaient pas.
Oui, donc moi j'ai lu la Bible au début, c'était bien.
Oui.
Je ne connaissais pas du tout.
Non.
Et puis, après une grève de la faim, on a eu droit à avoir la radio, un poste de radio, à avoir des journaux censurés, mais enfin bon,
oui.
Et avoir des livres pour peu qu'ils soient édités en France.
D'accord.
Donc, là, j'ai beaucoup lu, oui.
D'accord. Mais c'est-à-dire qu'en sortant, vous étiez toujours dans la mouvance révolutionnaire.
Mais ouais, je pense que la prison, c'est pas un bon instrument apaisant.
Mais vous avez recommencé, mais recommencé autrement ?
Oui. Bah, le mouvement lui-même avait changé en 18 mois, donc il s'était plutôt élargi. Il y avait le Secours Rouge, il y avait un mouvement intellectuel qu'on appelait Vigilant. Il y avait J'accuse, qui était un journal plus large que La Cause du Peuple. Enfin, La Cause du Peuple existait toujours.
Oui,
il y avait, donc le mouvement avait rassemblé autour de lui tout un ensemble de gens qu'on appelait dans le jargon de l'époque les démocrates. Sartre, Foucault, Maurice Clavel, tout ce monde-là. Et moi, j'étais à la fois dans l'équipe dirigeante du mouvement, mais j'étais aussi, je suis devenu celui qui était l'image et le porte-parole du mouvement dans ce secteur.
D'accord.
Large.
Est-ce qu'il y avait des moments spéciaux, enfin des incidents marquants? Pour vous à cette époque-là?
Ah oui, parce que très tôt, il y a eu l'assassinat de à Renault de Pierre Auvernet.
Oui.
Donc ça a été c'était dans une période à la fois d'escalade militante et d'élargissement démocratique, c'était une chose assez compliquée. On retrouvait des corps. Il y avait une répression il y avait des assassinats d'Algériens de façon importante. Qui était imputé, enfin en tout cas que nous avions imputé à la police à l'époque. Un peu.
Il venait faire un coup de tort.
Oui. Et tout ça faisait penser à ce qui s'était passé pendant la fin de la guerre d'Algérie, au moment des grandes manifestations du FLN, où il y avait eu des gens, des Algériens jetés dans la Seine, l'époque où Papon était préfet de police. Donc, et pour nous, il y avait une espèce de continuité de la démarche policière là-dedans. Donc on appelait à une manifestation dont on pensait qu'elle serait violente, puis c'était la police qui était mise en cause dans des meurtres.
D'accord.
Et c'est en distribuant un tract pour appeler à cette manifestation qu'Auvernay a été tué.
D'accord.
Donc ça a été un grand choc d'abord et un grand tournant. On peut en même temps dire que ça correspondait à des choses qu'on avait imaginées depuis longtemps, que
oui.
À l'occasion de quelque chose devant une usine, les armes à feu sortent,
oui.
Et qu'elles sortent du côté patronal ou policier, c'était pas le mouvement révolutionnaire qui ouvrait le feu, c'était bon. Donc tout ça et c'est là, je pense, que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à prendre conscience de façon assez claire que le principal risque que l'on courait, c'était que l'organisation révolutionnaire elle-même se retrouve en face à face, se retrouve dans une escalade en face de l'appareil d'État, de l'appareil
D'accord.
policier d'État.
D'accord.
Et que c'était pas ça, à nos yeux, ce qui aurait pu être un mouvement révolutionnaire, ça aurait été un affrontement entre les masses et l'appareil d'État.
D'accord.
Et à partir du moment où il y avait le risque non négligeable,
oui.
que ce soit entre nous et la police, ou nous et l'État, que se fasse l'affrontement, il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas assumer, ce qu'on voulait.
Mais est-ce que vous avez considéré que les masses n'étaient plus avec vous ou...
Alors, c'était sûr. Compliqué, parce qu'en
oui.
même temps, il n'y a jamais eu tant de monde qu'à l'enterrement d'Auvernay.
Oui.
Mais c'était un enterrement.
Oui.
Non, mais ceci dit, c'est votre réaction. Vu d'aujourd'hui et celle-là, il faut voir que pour toute une série de nos camarades, des militants qui étaient avec nous à l'époque,
oui.
ils voyaient les masses et ils ne voyaient pas l'enterrement. Enfin,
d'accord. Non, bah d'accord. Oui.
Donc on a commencé à avoir une équipe dirigeante qui, elle, avait bien vu l'enterrement et une organisation que nous avions créée. Qui, elle, était plus dans une logique de vengeance.
Ouais.
Si vous relisez le discours que j'ai fait au cimetière le jour de l'enterrement de Pierrot, je condamne l'idéologie de la vengeance. Et c'était pas évident.
D'accord.
Donc le premier, c'est probablement là que se produit un de nos premiers décrochages. Qui va donner la dissolution par nous-mêmes dans les deux années qui vont suivre de notre équipée militante.
Oui.
Il y a ça. Ensuite, il y a le Larzac et l'IP.
Oui.
Où on découvre qu'il se passe des choses extrêmement subversives dans les usines, que ça ne conduit pas forcément d'une part à une escalade militaire.
Et c'est sans vous.
Et c'est sans nous. Sans nous, en tout cas, avec une faible influence de notre
oui.
part. Et que donc, pour aller aussi loin que les ouvriers de l'IP, ils n'ont pas besoin de la gauche prolétarienne ou des Mao, puisqu'on appelle ça
oui.
comme ça à l'époque. Et pareil que les paysans du Larzac n'ont pas eu besoin de groupes révolutionnaires pour construire leur résistance leur subversion. Et c'est entre le fait que nous risquons d'incarner une escalade, un face-à-face d'une organisation avec l'État, et le fait que dans une usine où se produisent les choses les plus avancées dans la logique de 68, si on veut.
Oui.
ou dans un lieu comme le Larzac où, qui fédère tout ce qui peut fédérer, comme Libre d'ailleurs, tout ce que la France peut concentrer d'énergie subversive.
Oui.
Et qu'il n'y a pas là besoin de militants, mais par contre, quand on est entre militants, on risque de fabriquer un affrontement direct.
D'accord.
Avec l'État. C'est ça qui construit pour nous la décision, c'est ça qui fonde,
oui.
sur ces piliers-là, que
oui.
se fonde la décision d'autodissolution.
Qui est venu en 73 à peu près.
1973, ça prend du temps parce
oui,
qu'il faut arriver à expliquer
oui,
ça à tout le monde.
Oui.
Ce n'est pas extrêmement facile.
Oui. Et vous êtes parti dans quel sens? Parce que la Fondation de Libération, par exemple, à ce moment-là.
Oui, moi j'encourage. Enfin, je suis de ceux qui encouragent la Fondation de Libération, mais je rentre pas. Moi, j'éprouve le besoin de me reconstruire à travers une activité professionnelle, disons. Je continue à avoir Serge Julie ou des gens comme ça. Enfin, je suis pas au cœur de la machine
non.
de libération.
D'accord.
De la création de libération. Je participe, mais avec un certain recul.
Donc vous avez repris votre travail à la fac ou...
Ben, le travail à la fac est repris depuis,
oui.
depuis en fait ma libération, hein, depuis 71. D'abord à travers quelques occupations contractuelles, je n'ai plus le droit d'être enseignant.
D'accord.
Et puis, il y a l'amnistie Giscard, donc 74. Et là, l'université mène une bagarre pour ma réintégration et, qui est signée en 78.
78.
Voilà.
Donc il vous a fallu attendre 78 avant de rentrer.
Rentrer pleinement à l'université. Avant, je faisais quelques cours, enfin, c'était comme
oui.
ça, sur le marginal, sur le côté. Et là, je reprends une véritable activité professionnelle, je prends des responsabilités à l'université, etc. L'université qui m'a accueilli, protégé, qui a été qui a été extrêmement accueillante à mon égard pendant toute cette période, extrêmement bienveillante et accueillante, et à laquelle j'ai aussi le sentiment vers laquelle j'ai le sentiment d'avoir aussi une espèce de dette, quoi. Donc
oui.
En acceptant d'y prendre quelques responsabilités, ça fait partie de tout ça.
Enfin, question bête d'un universitaire, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que les recherches vous sont échappées pendant
Absolument, totalement.
10 ans ? Donc, qu'est-ce que vous avez fait ?
Totalement. Mais je me suis... ça m'a amené à faire deux choses. D'une part, j'étais dans un lieu de recherche extrêmement pointu,
oui.
au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Kastler y avait eu son prix Nobel, enfin bon,
oui.
c'était. Donc j'étais décroché, complètement décroché.
Oui.
Enfin, à ma sortie de prison, j'ai essayé de lire les rapports d'activité de mon laboratoire. Il s'était passé surtout dans le champ de la physique de la matière condensée, la physique du solide comme on disait à l'époque,
oui.
il s'était passé en 5-6 ans autant de choses que dans un siècle précédent, donc
oui.
ce sont des champs extrêmement rapidement mouvants. Hein.
Oui, oui.
Donc, je me suis occupé de la formation continue.
D'accord.
J'ai pris en charge tout un secteur neuf de l'université qui était de l'accueil des non-bacheliers, tout le dispositif de formation d'adultes.
D'accord.
Je me suis plus occupé d'enseigner, pour
d'accord.
être clair, qu'autre
d'accord.
chose. Et
d'accord.
puis j'ai accepté des responsabilités administratives.
D'accord.
Et comme les gens considéraient par ailleurs que j'avais été un chercheur convenable à une certaine époque,
d'accord.
C'est passé quoi.
Et votre vie personnelle ?
Ma vie personnelle, c'est-à-dire ?
Bah, vous êtes marié à un moment, etc. à cette époque-là ?
J'ai été marié en 65.
Ah, 65 déjà ? Ouais.
J'avais un enfant, 68. J'ai plutôt divorcé. Je me suis séparé de ma première épouse.
D'accord.
Et puis j'ai retrouvé.
Suite à ces événements, à des événements.
Oui, enfin, dans le. Oui, je pense qu'on peut dire suite à ces événements. Je ne sais pas ce qui serait passé autrement.
Non.
Mais. Pas par désaccord idéologique ou politique, mais.
Non.
Par,
mais on peut. Je ne sais pas, en tant que mari, je vois mal qu'on peut mener ensemble, enfin, une vie militante comme ça et une vie de famille normale, c'est pas.
C'est sûr. C'est sûr. Et puis.
Et puis politiquement.
Politiquement, il n'y avait pas de désaccord.
Non, mais je veux dire, plus tard, vous êtes venu plutôt à.
Et puis, alors, je me suis remarié.
Oui.
Enfin, j'ai trouvé une compagne,
d'accord.
Et puis je l'ai épousée des années après, beaucoup plus tard, enfin,
oui.
dans les milieu des années 70. Quoi.
Oui.
Voilà, donc je suis toujours marié.
Bien. Bon. Mais au point de vue carrière politique, trajectoire politique, vous êtes
trajectoire politique, donc pendant toute une série d'années, je me suis occupé de la vie universitaire. Enfin, j'ai pris des responsabilités à l'université. J'étais. Ça se passait tout à fait. J'ai dirigé un département d'éducation permanent, puis été vice-président de l'université.
Oui.
J'ai fait fonction de président d'université pendant toute une période, puisque j'étais le premier vice-président, donc le président était malade.
Oui. Toujours à fac de sciences.
C'était l'université Paris 7 à l'époque, puisque les universités se sont coupées. Donc j'ai dirigé Paris 7 complètement.
Oui.
C'était plus la faculté des sciences, hein, c'était lettres, sciences, médecine, enfin lettres, sciences humaines, sciences, médecine, un tiers.
Oui.
Et puis professionnellement, qu'est-ce qui m'est arrivé après ? J'ai participé extrêmement fortement à tout ce qui était l'informatisation de l'université elle-même,
oui.
Et la mise en place d'un enseignement lié à l'informatique, aux nouvelles technologies, etc.
D'accord.
C'est-à-dire une modernisation de l'enseignement de cette université et de son fonctionnement, de sa gestion. Qui m'a mis en contact avec les gens qui faisaient les percées dans le champ de l'informatique en France. Comme justement je n'étais plus chercheur dans un laboratoire, etc.,
oui.
je suis sorti de l'université. On m'a proposé de participer à la direction de l'agence de l'informatique, qui était une agence commune où, ministère de la recherche, des télécoms et de l'industrie à l'époque, qui avait vocation à accompagner, à faire progresser l'informatisation dans le champ aussi bien des entreprises que des systèmes scolaires, que de la recherche, etc.
C'était à quelle époque ?
Ça, c'est 82 par là.
Oui.
82-83. Et pendant toute cette époque, je n'ai pas fait de politique active, jamais.
D'accord.
J'avais le besoin de me reconstruire, de ne pas, comment dire, de ne pas passer d'une identité idéologique forte à une autre par
oui,
un petit
oui.
saut comme ça. Donc, j'avais même pas appelé à voter pour Mitterrand en 81.
Ah bon? Non.
Par contre, j'ai éprouvé une intense satisfaction quand il a été élu, ce qui m'a surpris moi-même.
Oui, oui.
Parce que moi, je. Et
vous avez quand même voté pour lui.
Oui. Et à partir du moment où le Parti socialiste est venu en difficulté dans les années 85-86, je me suis
ouais.
rapproché un peu.
D'accord.
Donc j'ai participé à des groupes de travail, des groupes de réflexion. Et de 86 à 88, je suis devenu un des responsables du groupe d'experts de Lionel Jospin.
D'accord.
J'ai été amené là par Claude Allègre,
oui.
qui était un de mes collègues physicien de la même université, qui m'a... qui m'a fait rencontrer Lionel Jospin,
oui.
qui était premier secrétaire du Parti Socialiste. Et donc j'ai participé à tout le travail qui a été fait, par exemple, entre 86 et 88, pour préparer la réélection de François Mitterrand. C'est à ce moment-là que je suis rentré au Parti Socialiste. J'ai pris la responsabilité d'un groupe d'experts, puis j'ai pris ma carte au Parti Socialiste, mais après.
Après
ouais. Enfin, à peu près à ce moment-là.
Et puis quand Jospin est devenu Premier ministre?
Oh non, avant,
il est devenu
ministre en 88.
Oui.
Et là, je me suis retrouvé dans les équipes ministérielles à partir de ce moment-là.
D'accord.
D'abord à la formation professionnelle, puis éducation nationale avec Jospin, etc.
Donc vous avez un peu suivi la trace de Jospin
ouais.
pendant ces
ouais,
années-là
ouais.
Jusqu'à 2002.
Jusqu'à 2002, oui.
Et puis maintenant...
À partir de 2001, je me suis retrouvé dans l'équipe de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris.
D'accord. Parce que il a été élu maire en quelle année?
2001.
2001. Et donc votre fonction était auprès de lui, c'était
oui.
quoi?
Qu'est-ce conseiller.
Que... Conseiller. Ça consiste en quoi, conseiller? Enfin, c'est...
Private office.
Et qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que... Donnez-moi un exemple d'une chose que...
Bah, moi, j'étais en charge auprès de lui de tout ce qui était le champ scolaire, universitaire, la recherche, la technologie.
D'accord.
D'une part. Et d'autre part, j'ai suivi pour lui les relations avec les institutions et la communauté juive, par exemple.
D'accord.
Dans toute la période où il y a eu des attentats antisémites. Et
non, oui, d'accord. Parce que est-ce que votre origine juive, vous êtes devenu plus important?
Enfin, oui et non, pas vraiment, je ne sais pas.
Non, mais par exemple, dans le cas de Benny Lévy, ça c'est de...
Dans
ça
le cas de Benny Lévy, je me suis... je continuais à le voir jusqu'à sa mort de temps en temps,
oui.
Dans des confrontations terribles sur ce genre de sujet, parce que
oui.
Moi, je n'ai pas de... je suis quelqu'un qui n'éprouve aucune angoisse religieuse. Voilà. La religion, moi, je ne sais pas ce que c'est.
Voilà.
C'est un univers à part. Donc, nous sommes séparés là-dessus avec Benny.
D'accord. Et c'était difficile, la séparation?
Oui,
ouais.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Nous étions extrêmement proches. Nous sommes restés, d'ailleurs, en une relation affective forte, mais je n'ai absolument pas accompagné dans son cheminement. Moi, je peux tout à fait respecter les convictions religieuses des gens. Ça, voilà. Je trouve ça tout à fait normal et il n'y a aucun problème avec ça. Je reste très attaché à la liberté de conscience.
Non, d'accord. Alors, une dernière question, enfin, on va peut-être. C'est sur votre attitude de maintenant, et ça s'est concrétisé un peu, cristallisé, parce que Sarkozy a fait ce fameux discours le mois dernier, et vous avez répondu avec Cohn-Bendit là-dessus.
Avec un peu d'humour quand même.
Oui.
Nous avons essayé de le faire avec humour.
Lui ne le fait pas avec humour, son discours n'était
Sarkozy,
pas.
Non, Sarkozy, non, pas du tout.
C'était sérieux, mais. Je comprends mal son objectif. C'est pour attirer des votes des anti-68 heures. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Je pense qu'il y a deux choses dans. Son discours est articulé, j'ai essayé de le lire un peu.
Oui.
Articulé sur deux thèmes.
Oui.
La lutte contre le relativisme.
Oui.
Alors je me suis demandé pourquoi ce mot.
Oui.
Qui n'est pas courant dans le discours politique français.
Non.
Du tout.
Non.
Par contre, c'est le discours complet de Benoît XVI.
Oui. Oui.
C'est le cœur de la démarche de Benoît XVI, avant même qu'il devienne pape et qu'il a reproduit comme pape,
oui.
Sur le rétablissement de valeurs absolues.
Oui.
Et qui sont pour lui son église et son corpus spirituel. Et il n'y a que là qu'on voit apparaître dans le champ des discours depuis 10 ou 20 ans,
oui.
La lutte contre le relativisme.
Oui.
Visiblement, Sarkozy s'est approprié ça, et je pense qu'il faudra fouiller plus loin pour voir. Lui, on voit bien ce qu'il met derrière, puisqu'il il explicite. Bon, ça c'est une chose. L'autre aspect du discours de Sarkozy, c'est ce qu'il dit sur le cynisme.
Oui.
Dans lequel il rend en 68 responsable des parachutes dorés des grands patrons.
Ouais.
Et là, je dois dire que je n'ai toujours pas saisi la filiation qui le mène. Je pense qu'il. Ah.
Je vais faire. Ça
oui, moi, ce qui me frappe dans le cynisme, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'il a voulu dire. C'est pas tombé comme ça du ciel, ni accidentellement, d'autant qu'il a répété les choses. Il a fait à plusieurs moments, donc c'est quelque chose d'important dans la construction de son discours politique. Mais sur le. Autant sur le relativisme, on peut arriver à comprendre ce qu'on peut trouver. De toute façon, l'idée qu'il y ait un seul discours 68 est idiot. Enfin, je veux dire en soi, c'est d'une stupidité, puisque 68 est un mouvement, une coïncidence de mouvements, et il n'y a pas un discours construit, une unicité de discours, ni au moment où l'événement se produit, ni au moment de 68, ni après dans la suite des choses. Et si on regarde par exemple Ferry dans son ouvrage sur Ferry et Renaud sur leur ouvrage sur la pensée de 68, on s'aperçoit qu'il est fort peu question de 68 et beaucoup du structuralisme. Et que réduire 68 au structuralisme est, à mon sens, pas loin d'une escroquerie intellectuelle.
Ouais.
Bon. Mais, enfin, ça, cette chose à part, l'autre chose, alors qui est importante, je pense, dans dans ce que Sarkozy essaye de faire, c'est qu'il essaye de réveiller la nostalgie de l'avant 68.
Oui.
Donc, d'une époque où les choses étaient dans cette nostalgie-là, en ordre, la
Oui.
famille était en ordre, l'école
Oui.
était en ordre, etc., etc.
Oui.
Donc, c'est au sens propre une pensée réactionnaire ou contre-révolutionnaire ou de restauration. En gros, ce qu'il projette sur la scène politique. C'est l'idée que lui va restaurer l'ordre ancien, l'ordre qui prévalait avant 68, avec peut-être en subliminaire l'image de l'autorité du général de Gaulle ou quelque chose comme ça pour construire un personnage de président de la République. Ça, je pense que c'est tout à fait solide et plausible. Alors moi, je ne sais pas si les Français ont le réflexe de réfléchir un peu, s'ils sont prêts à ce que le SMIC perde 30% de sa valeur la semaine prochaine, si l'autorité patronale et celle des contremaîtres doit être restaurée, si la famille, etc., si on doit mettre les petites filles en tablier rose et les petits garçons en tablier bleu pour aller à l'école. Mais c'est quand même cette image-là d'une restauration de l'ordre ancien dont il veut se présenter comme porteur. Bon, voilà, ça je comprends. Je comprends ça, je comprends ce qui est dit sur le relativisme, parce que c'est vrai qu'en 68, l'autorité absolue de droit divin est quand même largement mise à mal et contestée, donc on peut décliner ça. Le cynisme politique, faudra attendre peut-être des développements ultérieurs de la pensée du président de la République.
Mais dans votre réponse, vous avez dû, avec l'espace que vous avez, cerner 68 comme anti-autoritaire.
Bien sûr.
Oui. Donc vous pensez qu'il y a un fond de quelque chose en
Ah
68?
ouais, absolument.
Oui.
Il y a un fond maintenant. Moi, je pense surtout que le 68 est profondément digéré par la société qui en a. C'est 40 ans après, les choses, le corps social a fait son propre tri et a rejeté ce qui ne lui convenait pas et a pris dans les pensées 68 et les pensées de la suite, ce qui lui convenait, ce qu'il rejetait. Je ne dis pas que c'est inscrit pour l'éternité, mais je pense qu'il y a une espèce de, comment dire, un métabolisme qui s'est produit et il devient très difficile de discerner aujourd'hui ce qui est une trace directe, parce que tout ça est quand même très
Mais
sérieusement.
vous-même, est-ce qu'il y a des choses que vous reniez, que vous rejetez, ou est-ce que vous
Ah
assumez
non.
tout ce que s'est passé à ce moment-là?
Assumer sûrement, ça ne m'empêche pas de rejeter
Oui.
beaucoup de choses. Enfin, je pense que je n'aurais pas été un compagnon du Parti socialiste ou de Lionel Jospin si j'étais resté à l'identique de ce que j'étais,
Oui, voilà.
ou de Bertrand Delanoë, si j'étais resté
Oui.
dans l'état d'esprit de l'époque.
Oui.
Donc, je pense que déjà en 68, on pouvait se poser des questions sur ce que signifiait le concept de révolution et de révolutionnaire. Je l'avais d'ailleurs évoqué au colloque universitaire d'Amiens quelques mois auparavant. 68, avant 68. Donc aujourd'hui, enfin, tout ça n'a guère de sens. En plus, à la fois, il y avait une pensée qui s'inscrivait dans une période historique où, comment il disait, Mao, le vent d'Est l'emportait sur le vent d'Ouest. Enfin,
Oui.
les Vietnamiens étaient en train de mettre les Américains dehors,
Oui.
les Français avaient été sortis de l'Algérie, enfin, il y avait tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un espace qui n'a strictement, enfin, une période, le mur de Berlin est tombé,
Oui.
on vit dans un espace qui n'a strictement rien à voir avec
Oui.
l'espace de l'époque. Donc
Oui.
tout ça n'a strictement, enfin, ça n'a même pas de, enfin, ça n'a pas de sens. Je suis en train de travailler personnellement, j'essaie d'écrire, je sais pas si j'arriverai au bout. Pour voir quelle est la trace actuelle de ce qu'on peut identifier comme une trace de cette période
Oui, c'est important.
dans le monde actuel, mais ce sont en tout cas des traces qui ne seront jamais pures, à la limite heureusement,
Oui.
parce que à l'époque il y avait un grand refus de ce qu'on appelait la récupération. Et bien, la société a récupéré 68 comme elle a récupéré beaucoup d'autres choses. Puis alors,
Oui.
elle en a fait.
Mais ce sera difficile de commémorer 68 l'année prochaine. Ça n'a
De toute
jamais été
façon,
commémoré
de toute
comme
façon, de
la
toute.
Révolution ou comme d'autres événements.
De toute façon, on aurait bien fait rire les gens en 68 si on leur avait parlé de
Non,
commémoration.
mais tout est commémoré aujourd'hui,
Oui,
non?
non, mais c'est bon,
Oui.
on vit dans une société de commémoration.
D'accord. Non, mais ça vous rattrape. Et, par exemple, est-ce que la mairie de Paris fera quelque chose l'année
Je
prochaine?
pense pas. Je pense pas. Je me parais très ridicule. Nous n'avons pas pris la mairie en 68.
Non. Vous ne l'avez pas pris?
Non.
Non.
C'est pas la commune de Paris en 68.
Non, d'accord. Non, d'accord, mais je dis que puisque les gens qui dirigent Paris sont peut-être plus ou moins d'accord avec certains éléments de 68.
Oui, mais
Et
enfin.
puisque les médias vont parler énormément de mai
Non,
68 l'année prochaine.
je ne pense pas que la ville se lance
D'accord.
dans une opération de commémoration, ni
D'accord.
la préfecture de police.
Bon, merci, on a très bien travaillé.
Je ne sais pas.